RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage consacré aujourd'hui aux Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord. La Corée du Nord est déjà accusée d'avoir kidnappé un ressortissant américain en Chine il y a 10 ans pour servir de professeur au dirigeant Kim Jong-un. Un sénateur américain vient d'ailleurs de soumettre un projet de loi en ce sens. Le Japon aussi estime qu'au moins 17 de ses ressortissants ont été kidnappés par des agents nord-coréens à la fin des années 70. Et il y a donc les Sud-Coréens, leur sort est beaucoup moins médiatique. Près de 4000 Sud-Coréens enlevés par Pyongyang depuis la fin de la guerre de Corée. Des pêcheurs, des militaires, des lycéens, 516 de ces victimes n'ont jamais été libérées. Le régime communiste du Nord a toujours nié tout enlèvement. La question a longtemps embarrassé le Sud. Les victimes étaient soupçonnées de sympathie communiste et leurs familles étaient surveillées et ostracisées. Mais celles-ci font désormais entendre leur voix et ont même réussi à rapatrier par leurs propres moyens quelques personnes enlevées. Les Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord, un grand reportage signé Frédéric Ojardias.
Le 10 décembre 1969, l'avion de ligne sud-coréen numéro YS à destination de Gimpo a été détourné en vol par un espion nord-coréen. 47 passagers et 4 membres d'équipage ont été enlevés. Seulement 39 ont été libérés par le Nord. À leur retour, ils ont annoncé que les autres ne reviendraient pas.
Séoul, août 2013, audition de la commission d'enquête de l'ONU. Pendant 2 jours, face aux 3 investigateurs des Nations Unies, des membres de familles de Sud-Coréens enlevés par le Nord racontent leur tragédie, souvent au bord des larmes.
Si le gouvernement de Corée du Nord a la moindre sympathie pour les souffrances de ma famille, il doit nous faire savoir si mon père est toujours vivant ou non.
Trois ans après ces auditions, rien n'a changé. La commission d'enquête a publié son rapport. La Corée du Nord l'a qualifié de farce. Près de 100 000 civils sud-coréens auraient été capturés par le Nord pendant la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Parmi eux, des docteurs, des techniciens recherchés pour leurs compétences qui faisaient alors défaut au Nord. À la fin de la guerre, la pratique s'est poursuivie à une échelle moindre. L'ONU estime que 3 835 sud-coréens ont été enlevés par le Nord, la plupart entre 1950 et 1980. Des pêcheurs, des militaires, des lycéens, l'équipage d'un avion et même un réalisateur et sa femme actrice. 516 n'ont jamais été libérés. Seulement 9 ont réussi à s'enfuir et à revenir au sud, souvent après des décennies de captivité. Lee Jae-gun, 78 ans, est l'un de ces 9 rapatriés.
Je suis né à Ulsan, dans la province de Gyeongsang du Sud, en Corée du Sud. Le 29 avril 1970, à 2h du matin, alors que notre bateau de pêche naviguait près de l'île de Baekniang-do, nous avons été arraisonnés et enlevés par des militaires nord-coréens.
Nous rencontrons Lee Jae-gun dans le bureau de l'Association des familles de victimes d'enlèvement dans le quartier de Gangnam à Séoul. Un bureau minuscule aux murs recouverts de vieilles photos en noir et blanc de personnes disparues. Assis dans un grand fauteuil en cuir, M. Lee raconte son kidnapping et ce qui a suivi.
On n'a pas eu d'autre choix que de se rendre parce que les soldats nord-coréens auraient tiré sans même réfléchir si on n'avait pas levé les mains. Nous avons été obligés de les suivre. 6 mois après mon enlèvement, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer à l'université. Quelle université, j'ai demandé. Ils m'ont répondu que j'y serais encore mieux traité que les étudiants d'élite de l'université Kim Il-sung. Et j'y suis allé. Mais la route qui m'a amené à cette école était bizarre. C'était un long chemin au fond d'une vallée, loin dans la montagne. En fait, c'était une institution qui formait et entraînait des espions. Et cela a été une période vraiment dure. En classe, on ne pouvait voir que le professeur devant nous, parce que sur le côté de nos bureaux, il y avait des rideaux qui bloquaient la vue. Tous les étudiants étaient assis en ligne. si bien qu'en classe, on ne pouvait pas savoir qui était assis à côté de nous. Tout était secret. La chose la plus difficile qu'ils m'ont forcé à faire dans cette école, c'était une épreuve de natation. Ils ont emmené 5 d'entre nous en bateau, loin, au milieu de la mer. Le soleil se couchait et d'un seul coup, ils nous ont ordonné de nous jeter à l'eau et de nager jusqu'au rivage. J'ai nagé pendant 24 heures. J'aurais vraiment pu mourir. Pour tenir, je pensais à mon fils que je voulais vraiment revoir. Bref, je suis resté dans cette école pendant 3 ans et 8 mois. Tout ce que j'y ai appris, c'est comment me battre, enlever des gens, ce genre de choses.
Extrait du rapport de la commission d'enquête de l'ONU. Un ancien agent nord-coréen a témoigné que les plus jeunes et les plus intelligents des Sud-Coréens enlevés devaient suivre des formations idéologiques et devenaient des espions. Plus loin, les pêcheurs enlevés qui avaient passé avec succès ces formations servaient d'analystes et de guides aux agents du bureau militaire numéro 584 qui menait 3 types d'opérations, infiltration, enlèvement et surveillance des côtes. Après sa formation, Lee Jae-geun a lui été renvoyé à la vie civile dans une province nord-coréenne reculée. Il travaillait dans une usine, s'est marié et il a eu un fils.
Quand j'ai été renvoyé vivre une vie normale, les Nord-Coréens m'ont dit que si jamais je révélais que j'avais été kidnappé et formé dans cette école, je serais exécuté. Je leur ai demandé ce que j'étais supposé dire et ils m'ont ordonné de répondre que j'étais venu au nord de mon plein gré parce que j'aimais le grand leader Kim Il-sung. Et ensuite, j'ai vécu dans la société nord-coréenne. Si vous saviez comme c'était difficile, comme on a souffert de la faim.
En juillet 2000, profitant du chaos suscité par la famine qui ravageait le pays et qui a provoqué un relâchement de la surveillance, Lee Jae-geun s'est enfui en Chine avec sa femme et son fils, puis il a rejoint la Corée du Sud. Mais les retrouvailles avec ses proches sud-coréens ont été moins joyeuses que prévu, car pendant les décennies de dictature militaire en Corée du Sud, les personnes enlevées par le Nord étaient soupçonnées de sympathie avec l'ennemi communiste et les membres de leur famille faisaient l'objet d'intenses surveillances et de discrimination.
Même si je suis revenu en Corée du Sud, je ne vais plus à Ulsan, qui pourtant est ma ville natale. C'est à cause de mon frère aîné. Quand j'ai été enlevé par la Corée du Nord, les autorités sud-coréennes ont refusé de lui délivrer un passeport. Il avait prévu d'aller à l'étranger pour travailler et pour gagner de l'argent, mais le gouvernement ne l'a pas autorisé à le faire. Il a demandé 2 fois, 4 fois, 10 fois. Il n'a eu que des refus. Et il n'a pas pu aller à l'étranger parce que moi, j'étais au Nord. Et aujourd'hui encore, mon frère m'accuse et il me dit « Salaud, j'ai pas d'argent à cause de toi ». Alors moi, je lui réponds « Grand frère, si je ne les avais pas suivis, ils m'auraient tiré dessus et je serais mort. Tu voulais que je fasse quoi ?» En tout cas, non seulement les personnes enlevées ont beaucoup souffert, mais en plus, le gouvernement sud-coréen a fait souffrir leur famille qui était désignée comme coupable par association. Et ça, je pense que c'est inacceptable.
Avec l'arrivée de la démocratie en Corée du Sud à la fin des années 80, ces discriminations ont disparu. Les familles ont commencé à s'organiser. Choi Song-yong, 64 ans, est le fondateur de l'Association des familles de victimes d'enlèvement. Son père, patron d'une entreprise de pêche, a été kidnappé en mer le 5 juin 1967.
Je n'avais que 15 ans quand mon père a été emmené par la Corée du Nord, cela fera 50 ans l'année prochaine. Sur son bateau, ils étaient 8 marins, 5 sont revenus au sud 3 mois plus tard. Ils ont expliqué que mon père ne reviendrait pas parce qu'il avait été condamné par un tribunal populaire.
Physique de boxeur, habillé d'un treillis militaire, Choi Song-yong est un combattant. Depuis 16 ans, il réunit par tous les moyens des informations sur les disparus, tente de vérifier s'ils sont toujours vivants, et chose étonnante, il a même réussi à localiser et à ramener au sud 8 d'entre eux.
J'ai recueilli des témoignages de Nord-Coréens. Après avoir réuni suffisamment d'informations sur certaines personnes enlevées, comme par exemple l'endroit où ils vivent, j'ai envoyé secrètement en Corée du Nord des intermédiaires pour aller les sauver. Faire cela coûte cher, mais comme j'avais fait de bons investissements, j'en avais les moyens. Je donnais à ces passeurs une somme initiale d'1 000 000 d'euros, mais je les payais plus s'ils réussissaient à faire revenir des personnes enlevées.
Ces activités sont illégales et dangereuses. Tout contact entre les deux Corées est interdit sans le feu vert des deux gouvernements. Et ces passeurs au nord risquent de sévères punitions si leurs activités sont découvertes par les autorités nord-coréennes. Les méthodes de Choi Sung-yong sont aussi critiquées. Certains des Sud-Coréens qu'il a rapatriés ont en effet déclaré avoir été piégés.
Rapatrier les personnes enlevées est difficile. Je dois leur décrire de nombreuses lettres, je dois les rassurer. C'est parfois délicat, leur passage au sud nécessite de les faire d'abord transiter par la Chine. Mais une fois en Chine, certains m'ont soudainement demandé de les laisser entrer en Corée du Nord.
Vous voulez dire qu'ils voulaient fuir initialement, mais qu'ils ont changé d'avis ?
Certains, oui. La principale raison pour laquelle ils décident soudainement de retourner en Corée du Nord, c'est qu'ils y ont une famille et qu'ils ont passé plus d'années avec leur famille du Nord plutôt qu'avec celle du Sud. Ils s'inquiètent aussi des répercussions pour les proches qu'ils laissent derrière eux. Ils pensent que s'ils s'enfuient en Corée du Sud, leur famille sera exécutée par le régime. Mais même s'ils me supplient de les renvoyer au Nord, je refuse. J'ai ainsi parfois rapatrié de force certains Sud-Coréens enlevés. C'est parce que c'est mon devoir de les faire revenir, quel qu'en soit le prix. L'un d'entre eux en particulier m'a accusé de l'avoir forcé à venir au Sud alors qu'il n'en avait pas l'intention. Même le gouvernement nord-coréen m'a accusé de les avoir kidnappés. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. Ils ont été enlevés et je les ai sauvés.
Choi Sung-yong est un personnage ambigu, controversé. Pour certains, c'est un héros. Pour d'autres, il cherche trop à attirer sur lui les projecteurs médiatiques pour défendre sa cause. Et il met ainsi en danger les familles nord-coréennes des Sud-Coréens qu'il a rapatriés. Choi Sung-yong, lui, reste droit dans ses bottes. Il multiplie les critiques contre son gouvernement qu'il accuse d'inaction.
Aujourd'hui, j'ai rencontré des grands-mères dont des proches ont été enlevés par le Nord. Je ne peux pas les oublier. On a fait ensemble une grève de la faim. Mais notre gouvernement ne prête aucune attention au problème. Dans le cas du Japon, même si les familles de victimes ne disent rien, les autorités tentent par tous les moyens de les rapatrier. Le gouvernement japonais se montre très actif. Le gouvernement sud-coréen devrait faire de même.
Le Japon a créé un ministère totalement dédié au dossier des enlèvements de ses ressortissants par la Corée du Nord. Son ancien Premier ministre, Junichiro Koizumi, avait obtenu en septembre 2002 la libération de 5 d'entre eux lors d'une visite à Pyongyang. La Corée du Sud a choisi une approche plus discrète, mais néanmoins active, assure-t-on à Séoul, du côté du ministère de la Réunification en charge de ce dossier délicat.
Je m'appelle Amujin, je suis le directeur en charge des questions de familles séparées au sein du ministère. Le problème des enlèvements est depuis longtemps l'un des plus urgents de la politique du gouvernement sud-coréen à l'égard du Nord. C'est notre devoir fondamental de protéger nos ressortissants et nous soulevons cette question à chaque fois qu'un dialogue Nord-Sud est organisé. La Corée du Nord continue d'affirmer que ces personnes sont venues au Nord de leur plein gré, mais le gouvernement sud-coréen considère qu'il s'agit de toute évidence d'enlèvements et de disparitions forcées. Nous tentons de savoir si les victimes sont toujours vivantes. Nous demandons au Nord à pouvoir échanger des lettres et notre but ultime reste de les rapatrier en Corée du Sud. Nous continuons de faire connaître nos demandes, mais la Corée du Nord persiste à affirmer que ce ne sont pas des enlèvements. En octobre l'année dernière, quand des rencontres de familles séparées par la frontière ont été organisées, la Corée du Nord, de façon surprenante, a accepté une de nos demandes et a vérifié si certaines personnes enlevées étaient toujours vivantes. La mort de certains d'entre eux a ainsi pu être confirmée. Nous pensons qu'il s'agit là d'un progrès significatif.
Mais depuis les deux essais nucléaires nord-coréens en janvier et en septembre, le conflit entre les deux Corées s'est envenimé. L'heure n'est plus au dialogue et la question des enlèvements est dans les limbes. Mais le ministère de la réunification ne reste pas inactif, insiste Hamujin.
Nous soutenons les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le dossier des enlèvements. Nous leur donnons des subventions. Nous aidons ainsi l'association de M. Choi Sung-yong à hauteur de 120 000 euros par an. Nous sommes aussi actifs pour faire connaître le problème auprès du grand public. Enfin, nous aidons les familles de victimes et les victimes qui ont été rapatriées en leur distribuant des allocations de vie et des indemnités.
Cette question des enlèvements s'ajoute sur la pile déjà élevée de dossiers gérés par le bureau de l'ONU sur les droits de l'homme en Corée du Nord, un bureau tout neuf créé à Séoul en juin à la suite de la publication du rapport de la commission d'enquête. Sa directrice, Signe Poulsen, a organisé en septembre une conférence de presse aux côtés de Choi Sung-yong.
Chaque minute compte quand une personne est mise en position de ne plus être protégée par la loi. Pour sa famille et ses proches, chaque minute d'angoisse sans nouvelle est une minute de trop. Mais dans le cas de la Corée du Sud et de mes amis comme M. Choi, on ne compte plus les minutes, ni les jours, ni les mois. On parle d'années, de décennies, dans certains cas d'un demi-siècle. Et c'est 26 280 000 minutes de trop.
Les Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord, un grand reportage de Frédérico Jardias, réalisation Swell Kedir.
Bonjour Frédérico Jardias.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors la Corée du Nord assure n'avoir enlevé personne et affirme que ces Sud-Coréens sont restés de leur plein gré, qu'ils adhéraient à son idéologie communiste. Que faut-il penser de cette affirmation ?
Eh bien, les nombreux témoignages réunis dans le cadre de l'enquête de l'ONU montrent qu'il est incontestable qu'il s'agissait bien d'enlèvements et que beaucoup de victimes sont restées au Nord, contraintes et forcées. Le cas du père de Choi Sung-yong, par exemple, qui a été enlevé, jugé et condamné par un tribunal populaire au Nord, ne laisse guère de place au doute. Pourtant, ce doute persiste parfois jusqu'au sein même des familles de victimes. Lee Chae-geun continue ainsi d'être accusé par son propre frère d'être resté volontairement au Nord.
Aux États-Unis, un sénateur accuse la Corée du Nord d'avoir enlevé un ressortissant américain. Qu'est-ce qu'on sait vraiment à ce sujet ?
En réalité, pas grand-chose. Cet Américain, David Sneddon, a disparu en Chine lors d'une randonnée en août 2004. Il parlait couramment coréen et sa famille accuse la Corée du Nord de l'avoir enlevé, mais elle n'a aucune preuve à avancer. Et cet été, Choi Sung-yong, le président de l'association des familles de victimes, a relancé les spéculations. Il assure qu'une source en Corée du Nord lui a confirmé que David Sneddon a bien été kidnappé par le Nord pour servir de professeur d'anglais à Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen actuel. Mais lui non plus n'a aucune preuve à montrer et il faut donc rester très prudent.
Les deux Corées organisent à intervalles réguliers des réunions de famille séparées par la frontière. Est-ce que ces réunions ont permis à des personnes enlevées de revoir, même brièvement, leurs proches du Sud ?
Oui, pour une poignée d'entre elles. Depuis 2005, les familles de Sud-Coréens enlevés ont été autorisées à se porter candidates à ces programmes officiels de retrouvailles, à la condition expresse de ne jamais faire référence à tout enlèvement lors de leur rencontre. Les participants sont tirés au sort et quelques familles ont ainsi été autorisées à revoir leurs proches enlevés. Mais ces rencontres ne durent que 3 jours et surtout elles sont très surveillées par des agents nord-coréens.
Est-ce qu'on sait qui, en Corée du Nord, commanditait ces enlèvements ? D'où venaient les ordres ?
Alors ces ordres venaient sans doute du plus haut niveau. Un ancien espion nord-coréen a ainsi affirmé devant la commission d'enquête de l'ONU qu'un département d'espionnage du parti a bien été impliqué dans ces enlèvements, un département qui se trouvait sous le commandement du dirigeant Kim Jong-il, aujourd'hui décédé. Les témoignages de plusieurs anciens officiers devant cette commission semblent aussi indiquer que les ordres d'enlèvement étaient signés par le fondateur du régime, Kim Il-sung, puis par son fils et héritier, Kim Jong-il. C'est par exemple ce dernier qui, féru de cinéma, avait ordonné le kidnapping d'un cinéaste sud-coréen et de sa femme actrice pour qu'ils viennent faire des films au Nord.
Les Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord, votre grand reportage, Frédérico Jardias, a retrouvé à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr. RFI, la sélection.